RFI, il est minuit et demi à Maputo, 23h30 à Luanda et Kinshasa, une heure de moins en temps universel.
Afrique Soir.
Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Alban Le Prince, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette demi-heure d'actualité africaine, la prestation de serment du président mozambicain Daniel Chapou, cérémonie d'investiture dans un climat de tension inédit. L'opposant Venancio Mondlane avait appelé à 3 jours de grève nationale. Le président angolais attendu ce jeudi à Paris, João Lourenço, sera reçu à l'Élysée à la mi-journée. Une visite pour renforcer les relations entre Luanda et Paris, selon la présidence française. Autre visite d'État, celle de Faustin Archange Touadéra, Moscou. Le président centrafricain est arrivé ce mercredi dans la capitale russe, où il rencontrera ce jeudi son homologue Vladimir Poutine. Nous reparlerons aussi de l'amnistie décidée par l'ancien président Macky Sall en 2024 au Sénégal. Une loi qui suscite la controverse depuis qu'elle a été adoptée, c'était en mars dernier. Oui, Daniel Chapou est donc officiellement le 5e président du Mozambique. Il a été investi ce mercredi et prolonge ainsi le règne sans partage du Frelimo, le parti au pouvoir depuis près d'un demi-siècle. Son élection est toujours très contestée. La cérémonie d'investiture s'est d'ailleurs déroulée dans un climat de tension inédit puisque l'opposant Venancio Mondlane avait appelé à 3 jours de grève nationale. Le récit de David Bachet.
Devant la place de l'Indépendance se forment de longues files d'attente. Des partisans de Daniel Chapou et quelques curieux sont venus assister à l'investiture.
Je suis très heureux, c'est notre président. Il mérite de diriger le pays avec respect.
C'est très important, surtout en ce moment, que le pays ait un dirigeant fort.
Moi je suis là pour les 500 métikaïches qu'on nous a promis. Je n'avais rien d'autre à faire.
C'est dans une ville déserte que le nouveau président prête serment. L'appel à la grève générale est largement suivi. Daniel Chapou assure qu'il entend son peuple et promet du changement.
Je sais que beaucoup estiment que les dirigeants sont des personnes inaccessibles et détachées des préoccupations du peuple. Tout cela va changer. Nous sommes ici pour servir et non nous servir.
Dans le centre-ville, très vite, des tirs retentissent. La police disperse chaque embryon de rassemblement. Daniel et Fidelich sont excédés.
Ce sont des bandits, des criminels. Ils ont tué 3 personnes aujourd'hui. C'est normal, ça? Les voitures sont arrivées et ils ont tiré. Pan, pan, pan. On ne l'acceptera pas. Ils ne gouverneront pas par la force.
On n'a pas peur. La mort, ce n'est rien. On veut la vérité électorale. On est déjà mort depuis longtemps.
Selon la société civile mozambicaine, la répression de la contestation a déjà fait plus de 300 morts.
Ici signé David Bachet, j'ajoute que l'opposant Venancio Mondlane s'est exprimé ce soir dans une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux. Il promet d'annoncer vendredi plusieurs mesures gouvernementales à engager durant les 100 premiers jours de son mandat. Venancio Mondlane continue de revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle. Jeudi dernier, à son retour d'exil, il avait prêté serment dans la rue devant la foule de ses partisans. Le président angolais attendu ce jeudi à Paris pour une visite d'État. João Lourenço sera reçu à l'Élysée à la mi-journée pour un déjeuner de travail avant un dîner d'État dans la soirée. Une visite pour renforcer les liens bilatéraux et faire le point sur les grands sujets régionaux et internationaux selon la présidence française. Je rappelle que l'Angola prendra le mois prochain la présidence tournante de l'Union africaine. Et avant de s'envoler pour Paris, João Lourenço a justement évoqué à Luanda son prochain mandat à la tête de l'organisation lors d'une conférence de presse.
La stratégie à suivre, c'est celle du dialogue, de parler à tous et de respecter les principes établis par l'organisation continentale, l'Union africaine, donc. Et ce, afin d'essayer de résoudre les graves problèmes auxquels notre continent fait face. Et je cite en commençant par l'instabilité politique, les guerres, le terrorisme, les prises du pouvoir par des voies inconstitutionnelles. Tout ça, donc, ce sont des phénomènes qui vont à contre-courant du développement économique et social que nous voulons pour nos pays. Donc, sans paix et sans stabilité, il n'y a point de développement économique et par conséquent, pas de solution aux problèmes sociaux des populations africaines.
Les problèmes sociaux des populations africaines.
Le président angolais João Lourenço attendu ce jeudi à Paris. Rappelons que l'Angola mène une médiation dans le conflit qui oppose Kigali et Kinshasa dans l'est de la République démocratique du Congo et sur place dans l'est justement de la RDC. Les organisations humanitaires s'inquiètent de l'augmentation du nombre de blessés de guerre, conséquence des affrontements entre le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par ses alliés. Depuis le début de l'année, plus de 400 patients ont ainsi été reçus par les organisations médicales comme Médecins Sans Frontières ou encore le Comité international de la Croix-Rouge dans le territoire de Massissi et à Goma. Une situation qui intervient alors que des combats d'une grande intensité sont signalés dans plusieurs localités du Nord Kivu. Correspondance à Goma, Héritier Baraka.
Les hôpitaux de Numbi et Minova dans la province voisine du site Kivu ont accueilli 192 blessés, celui de Nyabiondo 81, tous soignés par Médecins Sans Frontières MSF. Le CICR, une autre organisation humanitaire qui intervient dans la prise en charge des blessés de guerre, craint la détérioration de ces situations dans les jours à venir, comme l'explique Myriam Favier, chef de la sous-délégation CICR à Goma.
Rien que sur CBKN Docho par exemple, on a reçu 138 blessés entre le 1er et le 12 janvier, qui est quand même assez alarmant. C'est que si la tendance initiale était de recevoir plus de porteurs d'armes que de civils, ces deux dernières semaines ont prouvé que la tendance est en train de, en tout cas, s'équilibrer et qu'il y a énormément de civils qui sont malheureusement touchés. Donc on doit rappeler aux parties au conflit qu'il faut respecter le droit international humanitaire. On a entendu que le centre de santé de Ngungu aurait été touché.
Selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad, plus de 5 000 personnes ont fui les combats depuis début janvier. Mercredi, des violents affrontements étaient encore en cours. Silax Ngungu dans les Massissi, à 70 km à l'ouest de Goma. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Le président centrafricain est arrivé ce mercredi à Moscou pour une visite officielle de 3 jours. Selon la présidence russe, Faustin Archange Touadéra rencontre ce jeudi son homologue Vladimir Poutine. Leur dernière rencontre s'était déroulée en juillet 2023 en marge du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Moscou compte visiblement sur un nouveau renforcement de la coopération. RFI à Moscou, Anissa El-Jabri.
Pour cet entretien, le Kremlin indique que les dirigeants discuteront, je cite, de l'État et des perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines politique, commercial, économique et humanitaire, ainsi que des questions d'actualité sur l'agenda international et régional. Son porte-parole a précisé ce mercredi dans tous les domaines possibles, y compris celui très sensible de la sécurité. Cette visite intervient après la levée totale de l'embargo sur les armes, ainsi que la levée des restrictions sur le secteur diamantifère. La chaîne Ribar, réputée proche du ministère de la Défense, revendique dans ses décisions un rôle joué par la Russie, juge aussi, je cite, qu'il n'est pas exclu que Touadéra demande un autre lot d'aide humanitaire. Ribar pose surtout la question de contrepartie que la Russie pourrait mettre sur la table en échange, je cite encore, de toute l'aide apportée par le passé. Sont cités encore une fois l'ouverture d'une base militaire russe dans le pays et de nouveaux avantages pour les sociétés minières russes. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Au Gabon, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce mercredi à un remaniement de son gouvernement. Le Premier ministre Raymond Ndong Sima et les principaux poids lourds de l'équipe sortante conservent leur portefeuille. Le nouveau gouvernement compte 35 membres contre 31 dans l'ancienne équipe. Il y a 10 nouveaux ministres, dont Marc Doumba, nommé à l'économie, ou encore Séraphin Davin Akouré, promu ministre de l'énergie et porte-parole du gouvernement. 6 ministres quittent l'équipe gouvernementale. Parmi eux, celui des transports, Loïc Ndenga Mouduma, et celui des sports, Jacques Hogan. Le principal défi qui attend le nouveau gouvernement, c'est l'organisation des élections qui mettront fin à la transition en août prochain. Et puis les Nations Unies ont averti ce mercredi que les informations faisant état d'attaques de représailles contre des civils dans le centre de l'État d'Al Jazeera au Soudan soulevaient, je cite, de graves inquiétudes quant aux violations flagrantes du droit international. L'armée soudanaise, en guerre avec des paramilitaires rivaux depuis avril 2023, a réussi à avancer cette semaine sur Al Jazeera et repris Ouad Madani, la capitale de l'État, aux forces de soutien rapide.
Plus d'un milliard de dollars de recettes minières d'ici à fin mars au Mali. Ce sont les prévisions du ministère de l'Économie et des Finances. Prévision annoncée quelques jours après une saisie de 3 tonnes d'or sur le site de Loulo-Gounkoto où opère Barrick Gold. Le groupe minier canadien a d'ailleurs annoncé la suspension de ses opérations sur place. En cause, un bras de fer financier entre le gouvernement malien et la société canadienne. Bras de fer qui dure depuis des mois. Et les conséquences pourraient être négatives pour l'économie du pays. Explication, Alexis Bédu.
L'économie locale sera nécessairement fragilisée par cette décision. Barrick Gold, c'est plus de 8000 employés sur le complexe aurifère de Loulo-Gounkoto, sans compter les nombreux sous-traitants. La méthode utilisée par les autorités maliennes, arrestation, saisie des stocks et blocage des exportations, n'a pas été la bonne d'après Mamadou Sinci Koulibaly, opérateur économique et ancien président du Conseil national du patronat du Mali.
Moi, je pense fortement qu'il y a eu incompréhension. Je pensais qu'il fallait s'asseoir sur la table, négocier, il faut donner un préavis si l'autre partie ne veut pas, et rentrer en négociation et non pas utiliser la force.
L'attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers pourrait aussi être ébranlée par cet épisode Barrick Gold.
Ils sont tous aux aguets. Il y en a qui devraient ouvrir des mines au Mali en 2025. Mais je pense qu'ils vont déménager en Côte d'Ivoire. Il y a des miniers de classe B aussi qui sont en train de partir.
La Côte d'Ivoire en principal concurrent du Mali avec notamment ses deux importants gisements d'or, Lafigué et plus progressivement Koné qui entreront en production cette année.
Alexis Bédu. Et puis en Côte d'Ivoire, justement, la production de pétrole et de gaz dépasse les prévisions, annonce faite ce mercredi par le porte-parole du gouvernement. Amadou Koulibaly a rappelé que la production de la phase 1 a débuté en août 2023 et celle de la phase 2 le 28 décembre 2024. La production cumulée des deux phases doit permettre d'atteindre entre 75 000 et 85 000 barils jour et entre 80 et 85 millions de pieds cubes de gaz par jour. La décision de la mise en production d'une troisième phase sera prise fin 2025. Les forces vives de Guinée, plateforme qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile, appelle ses membres à se retirer immédiatement de toutes les institutions de la transition, à commencer par le Conseil national de transition où siègent certains membres de cette plateforme d'opposition. L'appel lancé ce mercredi soir fait suite à la décision des forces vives de Guinée de ne plus reconnaître depuis le 31 décembre dernier la légitimité de la junte au pouvoir selon les termes du communiqué. Les forces vives de Guinée exigent le départ du CNRD et la mise en place d'une transition dirigée par un gouvernement civil. Au Togo, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a rendu public son rapport pour l'année 2022. L'instance qui a pour objectif d'améliorer la transparence et la gestion des revenus des industries extractives y dresse un état des lieux et formule des recommandations. Principales ressources exploitées en 2022 au Togo, les phosphates et le calcaire. Les précisions de Magali Lagrange.
19 milliards de francs CFA, c'est le montant que les entreprises extractives ont payé en 2022, soit environ 30 millions d'euros. 80% de cette somme versée au compte du Trésor, un peu plus de 6% aux communes. Cela représente 1,5% des revenus budgétaires du Togo. Trop peu, un manque à gagner pour l'État, selon certains acteurs de la société civile. Ils s'interrogent sur la pertinence de certains avantages qui peuvent être accordés dans le secteur. Godson Ketomagnon, journaliste à Liberté et membre du comité de pilotage de l'ITIE.
Normalement, les ressources du pays devraient profiter au pays. Mais malheureusement, on constate qu'on fait du surplace pendant que ces entreprises se remplissent les poches. Elles rechignent à s'acquitter de leurs devoirs envers l'État. Encore moins envers les communautés au sein desquelles se trouvent ces ressources minières.
Trois entreprises sont identifiées dans le rapport comme étant celles qui ont le plus contribué aux revenus budgétaires à hauteur de plus de 90%, la SNPT dans le phosphate, ainsi que Scantogo et Boissem dans l'exploitation du calcaire. Pour Pidenam Sama, président de Veille Citoyenne Togo, la gestion de certaines des entreprises du secteur extractif n'est pas assez transparente.
Il y a une mauvaise gestion. Même quand vous prenez la SNPT par exemple, dans le rapport vous verrez que ça a été mentionné. Il y a des dividendes non versés, des états financiers non certifiés.
Il demande aussi une réforme du code minier qui date de 1996.
Une précision signée Magali Lagrange.
Afrique Soir sur RFI.
Au Sénégal, c'est une loi qui suscite la controverse depuis qu'elle a été adoptée. C'était en mars dernier, dans les tout derniers jours au pouvoir du président Macky Sall. Il s'agit de la loi d'amnistie qui annule les poursuites pour les actes criminels liés à des manifestations politiques. Actes commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Selon un rapport publié ce matin par l'Université de Stanford et le groupe de réflexion sénégalais Africa Jam Center, cette loi d'amnistie viole le droit international et est en déni de justice. À Dakar, les explications de Léa-Lisa Westerhoff.
Premier constat, en amnistiant tous les crimes commis dans le cadre des manifestations entre février 2021 et 2024, et donc aussi les cas de torture et les crimes de sang, cette loi prive les victimes de justice, mais aussi de la possibilité de connaître la vérité et d'obtenir des réparations. Très concrètement, 58 familles qui ont perdu un proche dans ces manifestations ont porté plainte, des plaintes classées sans suite depuis que la loi d'amnistie a été adoptée en mars dernier. Pourtant, la Convention contre la torture, ratifiée par le Sénégal, oblige les États à enquêter et à poursuivre les auteurs de torture ou d'exécution extrajudiciaire. Si Dakar ne le fait pas, il viole le droit international et les traités qu'il a signés, des engagements qui priment sur le droit national selon la Constitution sénégalaise. Conclusion, pour les juristes de l'Université américaine de Stanford, auteurs de ce rapport, il faut abroger cette loi d'amnistie et offrir la possibilité aux victimes des violations des droits de l'homme d'aller en justice et de connaître la vérité sur ce qu'il s'est passé. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar. RFI.
Et pour Alioune Tine, défenseur des droits de l'homme et fondateur du Centre Africa Jam, si cette loi d'amnistie a permis de pacifier l'espace public au moment de la présidentielle en mars dernier, elle est aussi, je cite, un poison car elle risque d'encourager l'impunité. Il y a donc, selon lui, urgence à l'abroger. Alioune Tine, au micro de Nicolas Sûr.
Je pense que les victimes qui sont là devant nous, de la famille des Didier Badji, des Fulbert Sambou, des Mankabou, décédés en détention. Donc, ces gens ont besoin de savoir la vérité de ce qui s'est passé parce qu'ils ont vécu des moments extrêmement tragiques. Ils ont ce droit, le droit à la vérité. Ils ont le droit à la justice. Et effectivement, si la loi d'amnistie est une obstruction, il faut lever cette obstruction pour permettre à ces victimes de savoir la justice. Qu'est-ce qui leur est arrivé?
L'amnistie a d'abord été, vous l'avez dit, un remède. Elle a permis la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, en même temps qu'elle permettait aux responsables sécuritaires du régime de Macky Sall d'échapper aux poursuites. Vous-même qui avez joué les médiateurs à l'époque entre les deux camps, vous dites aujourd'hui que c'était un mauvais compromis.
Donc, je dis aujourd'hui que la loi d'amnistie doit rendre justice aux victimes de crimes graves contre les droits humains. C'est ça. La loi d'amnistie ne doit pas être une garantie d'impunité pour tous les gens qui ont commis des crimes graves. Et la loi d'amnistie doit faire en sorte que le Sénégal respecte ses obligations en matière de droits humains, respecte ses obligations par rapport à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, respecte même ses obligations par rapport aux fondements de l'Union africaine.
Vous dites, depuis les dernières législatives, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont au Parlement la majorité requise pour annuler la loi. Mais qu'est-ce qui se passerait dans ce cas? Est-ce qu'on n'entrerait pas dans un casse-tête juridique inextricable? Qui devra décider de qui doit être poursuivi ou pas pour vous?
En principe, il y a aussi ce qu'on peut appeler une abrogation partiel, ça veut dire les gens qui ont été arrêtés pour avoir manifesté, mais toutes les personnes qui ont été auteurs de torture, auteurs d'exécutions extrajudiciaires, vraiment, ces gens ne peuvent pas ne pas être jugés parce que les victimes en ont besoin. Généralement, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Après la justice, maintenant, une fois jugé, on peut aller vers la réconciliation nationale. La réconciliation nationale ne peut arriver qu'après, effectivement, que les gens soient jugés, reconnaissent leur tort et s'amendent auprès de la société.
Alioune Tine, défenseur des droits de l'homme et fondateur du Centre Africa Jam, au micro de Nicolas Sûr.
En football, retour sur le tirage au sort du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. C'était ce mercredi à Nairobi, la capitale du Kenya. Le tournoi était initialement prévu en février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Mais mardi, la CAF a finalement annoncé son report au mois d'août prochain. Raison invoquée, toutes les infrastructures n'étaient pas prêtes pour accueillir l'événement. Seulement 17 équipes sur les 19 requises ont été qualifiées, mais la CAF a maintenu son tirage au sort. Les 19 équipes ont été réparties en 4 groupes pour les premiers matchs du tournoi. Correspondance à Nairobi, Alban Tiroir.
Danseurs et concerts d'une star kenyane, l'ambiance s'est voulue festive à Nairobi pour le tirage du CHAN, malgré les incertitudes qui pèsent sur le championnat. Une date repoussée, 2 équipes qui doivent encore se qualifier et des infrastructures qui ne sont pas prêtes. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, s'est voulu rassurant. Absent à Nairobi, il a adressé un message vidéo.
Les stades ont été modernisés, un grand travail de rénovation est en cours. C'est motivant et surtout très inspirant de constater qu'au plus haut niveau, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, il y a une détermination et une passion pour le développement du football. Nous avons foi en notre capacité d'organiser avec succès le CHAN au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.
Le président du Kenya, annoncé, était finalement absent lors du tirage, comme la plupart des présidents des fédérations. Pour motiver l'Assemblée, un mot d'ordre a été répété tout au long de la soirée. Les 3 pays hôtes seront prêts pour accueillir le CHAN en août. Salim Vouria, ministre en charge des sports au Kenya.
Nous saluons la décision de repousser le tournoi au mois d'août. Nous voyons ce report comme une opportunité pour devenir un centre d'excellence dans l'organisation de ce genre de tournoi.
Une nouvelle phase de qualification a été ouverte pour sélectionner les 2 équipes manquantes. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et du handball également avec l'Égypte qui a fait une entrée en force dans les championnats du monde 2025. Les triples champions d'Afrique en titre et quart de finaliste des Jeux Olympiques de Paris ont largement battu l'Argentine 39-25 pour leur premier match du tour préliminaire à Zagreb. En revanche, les grands débuts de la Guinée dans un mondial ont été compliqués. Le Sili National a été largement battu 40-23 par les Pays-Bas à Varazdin, toujours en Croatie, à suivre demain. Italie-Algérie, Tunisie-Danemark et l'entrée en lice du Cap-Vert contre l'Islande. Place au dossier Afrique économie consacré aujourd'hui à la production de poissons au Togo. Les Togolais, nous dit-on, en ont consommé plus de 150 000 tonnes en 2022, mais le pays n'en produit localement qu'une petite partie. 2 milliards de francs CFA devaient être investis l'année dernière pour le développement de la filière. Mais certains acteurs n'ont pas attendu pour se lancer dans l'aventure. Ainsi, à 200 km au nord de Lomé, dans le petit village de Nangbeto, se trouve la plus grosse ferme d'élevage de poissons du pays. Lofty Farm produit à la fois des alevins, des poissons marchands et des aliments pour poissons. Plus de 300 personnes y travaillent nuit et jour. Reportage de notre correspondant Peter Sassou Dogbé.
Après un premier essai dans la banlieue est de Lomé, Pierrot Akakbovi, transitaire de formation, décide d'aller s'installer sur le site du barrage hydroélectrique fin digue de Nangbeto.
Bruyère, la profondeur et tout ce qui accompagne la qualité de l'eau et choses de l'environnement.
C'est plus spacieux aussi.
C'est plus spacieux. Le barrage de Nangbeto fait 180 km².
12 000 hectares, dont 2 à 6 hectares en terre ferme, sont exploités. Une profondeur conséquente de l'eau, comprise entre 5 mètres et 20 mètres, le lieu est bien trouvé. Il y produit des aliments pour la consommation des poissons. Ce jour-là, le moulin tourne, on est à la production des aliments. Comme il est sur la machine, pour moudre, un mélange de farine de blé, de maïs, de soja, de la sonde, du manioc sec et des asticots.
Des fois, bon, s'il n'y a pas les coupures de laissage, on fait 230, 250. Mais si les machines ont des problèmes, des fois ça n'atteint pas comme ça.
Dehors, des bacs au sol contiennent des milliers d'alevins qu'il faut nourrir et oxygéner. Nicolas surveille. Un long processus pour arriver au gros poisson d'au moins 500 grammes. Pierrot Akakbovi, le promoteur.
Nous sommes à plus de 13 tonnes de nourrissage jour. Vous imaginez, vous le prenez par jour. Avec un truc moyen de 800 francs, vous voyez ce que ça fait. C'est plus de 10 millions qu'on jette dans l'eau chaque jour.
Le Togo a besoin de 6 à 7 000 tonnes de tilapia chaque année et Pierrot à Cracovie souhaite apporter sa pierre à l'édifice.
Nous sommes aujourd'hui à près de 30-35% de production. Et c'est ça qu'on a fait en 2024. Donc cette année, nous sommes en train de vouloir aller au moins à 50% de ce que ça va faire. Ça voudrait dire qu'on sera tout de 3500 tonnes cette année.
3500 tonnes, c'est l'objectif à atteindre en 2025. Pour l'instant, l'Artifarm n'exporte pas ses produits. Peter Sassou-Doré, de retour de l'Angleterre, RFI.
RFI, 22h55 en temps universel. Et avant de refermer cette dernière édition d'Afrique Soir, de la musique avec le groupe togolais Voodoo Game qui sort ce vendredi son 5e album. Sur ce disque intitulé Fintou, le groupe a pris le parti de traverser l'Atlantique pour mélanger son groove africain à celui de l'Amérique latine et forger une fusion Voodoo-Afro-Cumbia, un cocktail que Pierre Vallée nous invite à consommer sans modération.
Pantalon pas de def, col pelle à tarte. Sur la pochette du nouvel album, Peter Solo, le chanteur et guitariste de Voodoo Game, cultive le look des années 70. Composé de musiciens français et togolais, la musique de Voodoo Game a toujours été empreinte de nostalgie, naviguant entre l'afro-funk, le highlife et l'incontournable afrobeat. Un mélange efficace, parfaitement maîtrisé, concrétisé par le joli succès du titre « Pas contente » en 2014. Ce titre joyeux au premier abord est révélateur des considérations écologiques du groupe. Et si leur groove est redoutablement entraînant, les morceaux de Voodoo Game ont toujours un fond de philosophie. Ils interrogent sur le rapport de l'homme à la nature, le sens de la famille ou la spiritualité. Car, comme son nom l'indique, la culture voodoo n'est jamais très loin, comme une sauce liant tous les éléments d'une bonne recette. Pour ce 5e album, Fintou, Voodoo Game a pris un virage artistique. Plutôt que de continuer à creuser le sillon de l'afrobeat, ils se sont tournés vers l'Amérique du Sud et plus précisément vers la Colombie. Et ils ont eu une très bonne idée. Le mélange entre la cumbia et les rythmes togolais est subtilement dosé et apporte une dimension supplémentaire à la musique du groupe. En illustration, le morceau « Râlé », un titre au refrain envoûtant qui nous apprend d'abord que râlé n'est pas qu'une spécialité française, et ensuite que de Paris à Lomé en passant par Bogota, ça fait toujours du bien de râler.
De Fintou, le 5e album du groupe togolais Voodoo Game, album qui sort ce vendredi, un choix de Pierre Vallée. Ainsi s'achève cette dernière édition d'Afrique Soir, réalisée par Jonathan Brady, rédacteur en chef Alexis Guilleux, assisté de Simon Puy-Baudin. Merci de votre fidélité à l'écoute de Radio France Internationale, avec à suivre dans 30 secondes un nouveau journal.
Priorité. Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Regard croisé sur la cardiologie en Afrique subsaharienne.
Vendredi.
Émission Questions de femmes, nous parlons de la fatigue comme symptôme.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.